température, proprioception, c'est aussi les sensations qui viennent des articulations. Tout ça arrive dans cette ère somatosensorielle pour la prise de conscience. Tiens, si par exemple je mets ma main sur quelque chose de brûlant, ça arrive au niveau de mon cortex somatosensoriel qui prend conscience de l'information chaleur excessive et douleur et qui renvoie l'information, et c'est comme ça que je sais que c'est là que j'ai mal. Parce qu'en fait, c'est cette zone du cortex qui vient de là qui interprète la douleur et qui le renvoie en disant « oui, j'ai bien entendu » et qui va enlever la main au niveau moteur. Ça va ? Donc, l'interprétation de la douleur se fait là, elle ne se fait pas là. Et toute l'information sensorielle va, en collaboration avec le cortex moteur, constituer ce qu'on appelle le système sensori-moteur ou motori-sensoriel. Mais en général, c'est sensoriel-moteur, donc on dit sensori-moteur. Si je veux attraper un verre, par exemple, ce soit un verre en cristal, un verre très fin, je dois avoir une excellente sensibilité fine pour ajuster la pression des doigts. Si je presse trop fort, je casse le verre. Si je presse pas assez fort, le verre tombe. Ça va ? Donc, quand je veux faire un geste, l'aspect motricité du geste, c'est le cortex moteur, mais la force que je vais mettre et tout va dépendre de l'information qui part et qui va dire « Écoute, c'est pas assez serré, ça va glisser, ça glisse, ou c'est trop serré, ça va casser. » Et cette information-là, elle est sensorielle. Donc vous voyez que tout le temps, je dois ajuster ma motricité aux informations sensorielles que je reçois. Ça va ça ?
Ok. Pourquoi on dit que c'est l'air somatosensoriel et pas sensoriel ?
Parce que somato, c'est tout ce qui est la peau, le somatique, ça peut aussi venir, c'est aussi parfois, ça vient des organes, somato sont les organes, donc ça vient de, par exemple, mon estomac trop plein va envoyer une information, donc je vais prendre conscience pour me dire stop, arrête de manger, etc., etc. Ça va ? Donc c'est le sensoriel, mais qui vient de la peau et de l'intérieur du corps. Ok. Quand on s'éveille le matin, parfois on est encore un peu endormi au niveau de la tête. Et du coup, le cerveau ne reçoit peut-être pas les bonnes informations ou ne les interprète pas correctement. Et c'est pour ça qu'on se lève, on dit bon, tout à fait beau, on se cogne, des choses comme ça. Mais il y a des gens chez qui c'est comme ça toute la journée. Et donc peut-être que chez eux, la connexion sensorielle et motrice ne se fait pas correctement. Et c'est le cas chez les enfants hyperactifs dont on a parlé tout à l'heure. Chez ces enfants, c'est comme s'ils étaient tout le temps en alerte, comme s'ils devaient tout le temps surstimuler leur cerveau parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'informations. Si par exemple, ils veulent savoir où se trouve le mur, ils ne vont pas juste faire, c'est un exemple d'une métaphore, faire comme ça, pour savoir où se trouve le mur. Ou si, par exemple, ils veulent ouvrir une porte, ils ne vont pas l'ouvrir doucement, ils vont se cogner et tout. C'est comme si, dans la finesse, ça ne va pas, ils ne sentent pas les limites de leur corps et donc ils doivent être très, très actifs dans tous les sens. Ils ne se sentent pas, les enfants hyperactifs. Ils ne sentent pas les limites de leur corps. Or, le cerveau a besoin d'avoir un sens de notre corps. Le corps doit sentir jusqu'où il va, quelque part, pour sentir cette notion de différence entre moi, mon corps et le monde autour de moi. Et c'est pour ça qu'un enfant hyperactif qui, par exemple, pousse d'en haut d'un escalier un autre de ses camarades, c'est pas une volonté méchante de faire ça, c'est juste... Il n'y a pas de limite entre moi et les autres et je réagis de manière violente et je pousse et je suis excessive dans tout parce que je ne sens pas les limites de mon corps, parce que mon somato sensoriel ne donne pas des informations correctes et donc que mon moteur pour sentir a besoin d'être beaucoup plus excessif.
Et ce genre de choses, il y a moyen d'affiner alors ?
Oui, bien sûr. C'est comme s'il y avait une carence dans l'aspect sensoriel chez les enfants hyperactifs.
Une carence dans le sensoriel ?
Dans le sensoriel, oui. Une partie de leur cerveau est sous-active, et entre autres la zone sensorielle. Et comme ils ne sentent pas, mais pour sentir, il faut des mouvements plus grands. Si par exemple, moi, en me grattant la peau, je vais le sentir, ben, eux, ils vont utiliser vraiment un truc très violent pour sentir. Excuse-moi, je t'en prie. Donc, ils ont besoin de stimuli beaucoup plus forts pour sentir. Ils vont bouger plus. Quoi ?
Est-ce que ça peut. Parce qu'on dit parfois qu'il y a des enfants agressifs, mais est-ce que. Par exemple, un enfant hyperactif à qui on va faire souvent des remarques, ça peut le rendre agressif.
Ben, évidemment, hein. Évidemment. Hein. Mais donc l'enfant va jusqu'à se faire mal, mais il cherche à se trouver lui-même. Il est perdu dans l'espace, quelque part, et où sont mes limites, qui je suis, jusqu'où je vais, jusqu'où où commence. C'est un peu ça l'histoire.
On a vérifié ça par imagerie que les hyperactifs étaient
Attends, j'ai pas dit que c'était que ça.
Non,
c'est entre autres ça. Ça va ? Entre autres le sensoriel. Mais tu le vois dans leur comportement. Alors, ta question, tu peux la poser, je n'y répondrai pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que franchement, que ce soit pour Richard ou pour Alfred, tous les deux, ce cours, c'est plus un cours lié au comportement qu'un cours lié à l'analyse imagerie, blabla. C'est un cours fonctionnel et pas un cours anatomique. Et on se rend compte qu'un enfant hyperactif va sans arrêt avoir besoin de se surstimuler à tous les niveaux. Et surstimuler l'aspect somatosensoriel, ça... Donc, puisqu'on voit ça, on va voir là. Et puis on corrige là, et on se rend compte que ça change leur comportement. Donc c'est vraiment sous cette forme-là, et pas du tout dans une analyse comme Charles Krebs, qui a besoin d'analyser pour comprendre. Ici, c'est pas du tout vu comme ça. Ça va ? Donc je ne te répondrai jamais à ce type de question. Bien, au niveau. Donc, ça, c'est les enfants hyperactifs. Maintenant, il y a autre chose aussi au niveau somatosensoriel que vous pouvez faire, des expériences, où par exemple, vous placez au bout du doigt une aiguille et puis juste à côté une autre aiguille. La personne a les yeux fermés. Et vous lui demandez, il y a combien d'aiguilles ? En général, ou des petits piquets, hein, ou ça peut être deux pointes de pique ou des choses comme ça, en général, la personne vous dira deux. Mais si vous faites la même chose très très proche au niveau du dos, elle vous dira rien. Parce que la différenciation tactile est beaucoup moins bonne au niveau du dos qu'elle n'est au niveau des mains et du visage. Les lèvres, par exemple. Si je fais deux, bon, bien sûr, ce sont mes mains, donc je sens bien. Mais si je fais deux points très proches au niveau des lèvres, je sentirai qu'il y a deux. Au niveau du dos, je ne sentirai pas qu'il y a deux. Ça, ce sont des préactivités que vous pouvez, par exemple, faire. Et si vous regardez au niveau, de nouveau, de l'homonculus, dans votre livre, vous verrez que toute la zone de la face est extrêmement, prend une place extrême, justement, parce que y a beaucoup de sensibilité. Les lèvres sont énormes dans la partie sensorielle, dans la partie motrice aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, c'est pas dans celui-ci. Je vais aller, c'est dans celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très très grand aussi dans la partie sensorielle ? Ben, les organes génitaux, évidemment. Regardez ici. Donc ici, c'est le cortex sensoriel. Vous voyez, tout ça, ça couvre les organes génitaux. Regardez les lèvres, comme elles sont énormes. La face aussi. Là aussi, au niveau moteur, puisque pour parler, j'ai besoin de bouger mes lèvres aussi. La main prend toute une place, etc. Et vous voyez que vous avez une zone ici intra-abdominale. C'est la sensibilité de vos intestins, de votre estomac et tout, trop plein, dont je parlais tout à l'heure. Bien. Alors... Vous pouvez aussi jouer, quand je vous disais pointer de bique dans le dos, des choses comme ça, vous pouvez aussi jouer avec écrire des chiffres dans le dos, hein, pour repérer ce que tu arrives à sentir, par exemple. Et donc, je vous disais que la partie sensorielle est vraiment fondamentale pour la partie motrice. Mais si, par exemple, je veux attraper ce cerveau, ou je veux attraper un verre en vous parlant, ou des choses comme ça, pour aller vers le cerveau, je dois savoir où est ma main. Pour décider que le mouvement que je vais faire va venir d'ici et aller vers le bas et un peu vers la droite et voir vers l'avant, je dois savoir d'où je pars. Comment je sais où je suis? C'est le somatosensoriel, qui, la proprioception qui vient des articulations, qui me dit, voilà, ton index est écarté de ton pouce d'autant, pour prendre, tu vas devoir écarter plus et puis refermer, etc. Donc pour créer un mouvement moteur, je dois savoir où je suis pour y aller. C'est pas la même chose si ma main est fermée comme ça et est ici pour prendre, je vais devoir faire ça et écarter et puis serrer, que si ma main est comme ça et qu'elle est là, je vais devoir faire un tout autre mouvement. D'accord? Donc, le somatosensoriel est fondamental pour le moteur, pour mettre en place le schéma moteur. Mais dans la vie, c'est la même chose. Si je veux aller quelque part, je dois savoir où je suis. Hein? Si je suis en Italie et que je veux aller en France, ce n'est pas la même chose que si je suis à Bruxelles et que je veux aller en France, à Paris. Bien. Et en général, quand je suis debout, de l'intérieur, j'ai les yeux fermés, vous me demandez comment se trouve mon pouce gauche, ou mon index droit, ou mon genou gauche, je le sais, je n'ai pas besoin d'aller voir. Ça, c'est le somatosensoriel qui vous donne cette information, qui amène à la conscience. Donc non seulement des questions de température, de douleur, de piqûre, de sensibilité précise, ou non, mais aussi toute la proprioception. Pour l'instant, je sais que mon genou droit est plus en avant que mon genou gauche et qu'il est légèrement fléchi, alors, etc., etc. On a la conscience du corps. Et c'est ça aussi qui manque aux enfants hyperactifs, cette conscience du corps. Et souvent, eux, comme ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Et donc leurs mouvements sont beaucoup plus... Et en général, les enfants hyperactifs en arrivent à faire des choses, des mouvements, ou à se retrouver là où ils ne voulaient pas, parce qu'ils n'ont pas cette notion de leur corps. Et ça, c'est très difficile. Donc, la sensibilité, ce n'est pas juste arriver à sentir quelque chose, mais c'est aussi tout cet aspect, sentir son corps. Ça va ? Savoir où son corps est. Ça donne aussi très fort le sens de qui je suis, quelque part. Parce que c'est sûr que mon sens de comment je me tiens dans la pièce a aussi un impact sur comment je me sens dans l'état de qui je suis. Et tout ça, ça va être relié quelque part. Ok. Bon, ça, je crois que je vous ai assez dit. Les lésions qu'on peut trouver... Je peux par exemple avoir une lésion au niveau somatosensoriel, donc en arrière de la scissure centrale, et ne plus pouvoir bouger un doigt. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je dois avoir une information qui arrive, somatosensorielle, qui dit à l'air motrice, bouge ça. Mais si par exemple de mon doigt, je n'ai plus d'information qui arrive, je ne pourrai plus bouger mon doigt. Si de mon genou, j'ai plus d'informations qui arrivent, je ne pourrai plus bouger mon genou. Et ça, ça s'appelle l'apraxie. C'est l'incapacité. L'apraxie, c'est l'incapacité de bouger une partie du corps, la main en général, alors que l'air motrice est intacte et que la force musculaire est intacte. Incapacité à bouger une partie du corps, la main en général, alors qu'au niveau moteur, tout va bien, au niveau muscle, tout va bien. Et c'est dû à quoi? C'est que l'air motrice se base sur les informations qu'elle reçoit de l'air sensoriel.
Donc il y a une lésion là.
Si j'ai une lésion dans l'air sensoriel, ça peut entraîner une paralysie. Ça va?
Tu peux pas, avec la vision et la conscience de l'endroit où se trouve ton doigt.
Non, parce que je n'ai pas d'informations qui arrivent.
La route, elle n'arrive pas là, mais elle arrive.
Ça marchera pas.
Ça marchera pas.
Ah, ça marche pas.
C'est impressionnant. Hein.
Mais donc, ouais, c'est quoi qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
dans la praxie?
Oui.
La lésion se trouve dans le somatosensoriel, alors que le moteur et le muscle fonctionnent tout à fait bien. Mais je ne suis pas capable de l'utiliser. C'est impressionnant. Et donc, quand vous avez affaire à une paralysie, supposons que vous ayez quelqu'un sur la table qui est paralysé, qui n'arrive plus à... Ne vous dites pas c'est au niveau moteur nécessairement que je dois aller, ça peut aussi être au niveau somatique, somatosensoriel. Parce que peut-être que c'est là qu'il y a un stress qui fait que le moteur ne veut pas agir.
Mais c'est des lésions irréversibles aussi, ça.
Mais ça dépend de nouveau jusqu'où l'AVC a touché. Hein.
Dominique, dans ton mouvement, il y a une partie. Par exemple.
Le somatosensoriel est fondamental à tout mouvement. Et c'est pour ça que je vous ai dit pendant un jour et demi, on va faire le mouvement, mais ça fait partie du mouvement.
Parce que ce matin, tu disais, pour faire le mouvement, ça part du cortex et tout ça suit un chemin. Mais évidemment, au départ, du cortex.
Bien sûr, moi, je rajoute les choses, je vais encore ajouter après. Hein. Chaque fois, oui. Bien sûr, la commande pour aller bouger mon doigt, elle part de là. Ça va? Voilà. Ça, c'est la commande. Mais pour ordonner la commande, il faut... Donc, il y a le cortex frontal, mais ça, on va pas voir ici, qui le décide. Mais je dois aussi... C'est ce que je te dis. Pour aller chercher le cerveau là, je dois savoir où je suis. Si je ne sais pas où je suis incapable d'aller chercher. Incapable. Et donc, je vais donner l'impression que je suis paralysée. Mais ce n'est pas paralysée, parce que ma force, elle est là. Mais je ne sais pas l'utiliser parce que je ne sais pas où je suis. Tu vois? Et chez les enfants hyperactifs, c'est un petit peu ça. Ils savent pas, ici ils savent où ils sont, mais pas de manière précise, et donc ils vont avoir des gestes beaucoup plus. Voilà, par exemple. Ça va? C'est impressionnant.
Oui.
Mais voilà, j'ai pas d'image de mon corps, donc je peux pas bouger.
Ouais, c'est fou.
Alors, bon, ça c'est des grosses lésions. Mais maintenant, des petites lésions. Mais des petites lésions, ça peut être la personne est gauche, bon, la personne est hyperactive. Ou quand elle écrit, par exemple, elle serre très très fort son stylo, ou elle serre trop fort son verre, ou des choses comme ça. Elle a des difficultés d'écriture parce qu'elle est trop crispée. Mais pourquoi elle est trop crispée? Probablement parce qu'elle ne sent pas. Et donc, le message qui revient, c'est, par exemple, vous voyez que les problèmes se manifestent aussi au niveau de la motricité. Hein. On les entend plus souvent au niveau de la motricité. Ou alors la personne n'a pas de sensation de son corps ou d'une partie de son corps. Il y a des gens, ils n'ont pas de sensation du tout de leur dos. Rien du tout. Quoi? Mais oui. Ou d'autres parties de leur corps.
Non, je disais quelle chance parce que je n'ai pas de dos.
Ok. Alors, si on va à un niveau un peu plus métaphorique, comportemental, pour pouvoir être empathique, avoir de l'empathie pour quelqu'un. Avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est sentir. Mais si je ne peux déjà pas me sentir moi-même, je ne pourrai pas sentir l'autre. Et donc la zone somatosensorielle peut aussi interférer dans des comportements chez des personnes qui ont des difficultés à être empathiques. Un enfant hyperactif, il n'a aucune empathie. S'il pousse un autre gosse dans les escaliers, il ne sait pas que ça va lui faire mal. Il n'a aucune notion de ça. Parce qu'il n'a aucune notion de lui. Ça va? Je prends l'exemple des enfants hyperactifs, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui sont liées. Donc, ou bien je peux me sentir dans mon corps, ou bien je peux me sentir dissocié de mon corps. Où il est mon corps? Quelles sont ses limites, etc. Et ça peut être ça peut aussi être suite à des stress de type un accident. J'ai fait un accident avec une lésion, un stress au niveau d'une zone cérébrale qui fait que. Mais aussi, parfois, ça peut être dans des cas d'abus. Par exemple, une femme qui a vécu un abus sexuel et qui, du coup, n'a plus aucune sensation de tout le bas de son corps. Coupée. La zone est engourdie. J'ai plus rien qui vient de là, par exemple, etc., etc.
Mais alors, Dominique,
oui.
Dans ce cas-là, c'est plutôt qu'une lésion, ce sera plutôt des cellules sidérées. Ce ne sera pas vraiment lésé.
Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle une lésion fonctionnelle et pas une lésion organique.
Okay.
Tout à fait. C'est le stress. Mais dans les 95-99% des cas que vous allez rencontrer, c'est ça, hein, c'est des lésions fonctionnelles, c'est pas des lésions organiques. Claire. Mais dans les lésions fonctionnelles, les symptômes sont les mêmes, mais de manière plus légère, quelque part. Alors, si la lésion somatosensorielle se trouve dans le cortex somatosensoriel droit, le côté droit du cerveau, en général, donne une vision globale du corps. Et donc, bien sûr, je vais perdre une forme de sensibilité du côté gauche du corps, mais au niveau de l'image globale de mon corps, j'aurai aussi une perte. Parce que le cerveau droit est plus global, plus gestalt. C'est pas ? Tandis qu'une personne qui a une lésion au niveau de l'aire somatosensorielle gauche aura plus une perte dans le sens précis, surtout du côté droit du corps. Ça va ? Des deux côtés ou du côté droit ? Donc, la lésion à droite, c'est plus perte globale, mais aussi l'empathie. Lésion à gauche, c'est plus des zones précises du corps. Alors, je vais vous demander de dire R, R et L. Faites-le, dites-le. R, L. Vous voyez que la langue bouge un tout petit peu pour dire entre le R et le L. D'accord ? Ça, c'est au niveau moteur pour le prononcer. Au niveau somatosensoriel, c'est la même chose que je ne sais pas où est ma main, je ne sais pas attraper le truc. Ok ? Si je n'ai pas conscience d'où est ma langue dans ma bouche, je ne vais pas prononcer le R et le L différemment. R et L, c'est très proche. Et le L, la langue vient juste cogner le R pas. C'est très très proche. Et donc, les gens qui ne peuvent pas articuler, en fait, c'est souvent parce qu'ils ne peuvent pas entendre ou sentir dans la gorge le phonème. Ils ne peuvent pas faire la différence entre une lettre et une autre. Et donc, ils vont parler, par exemple, les R, ils vont dire « je vais louler » au lieu de « je vais rouler ». Bon, j'exagère, mais parce qu'ils ne peuvent pas sentir la différence, donc ils ne vont pas pouvoir l'exprimer. Toi, tu es comme ça ? Bah, mais en japonais, le R, c'est très difficile.
Mais donc, ce n'est pas le problème de... Non, parce qu'on n'a jamais... Moi, je n'entends pas L et R.
Tu ne l'entends pas, mais tu le prononces quand même.
Oui, parce que j'ai appris. Oui. Mais souvent, quand on dit L et R, plusieurs lettres en continu, je ne sais pas où il faut mettre L et R.
Ah oui, d'accord.
Donc, je n'entends pas.
C'est ça. Et en fait, tu te dis « je n'entends pas », alors que ce n'est pas vraiment l'oreille, c'est plus au niveau de la conscience du corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on n'entend pas. Je n'entends pas la différence. Mais c'est la conscience, et ça c'est parce qu'en japonais, vous n'avez pas cette différence. Et donc tu n'as pas grandi avec cette conscience d'une différence. Et donc, mais ça peut peut-être être intéressant.
Ça peut corriger.
On ne sait pas. On ne sait pas, on peut voir.
On peut voir. Il y a beaucoup de prononciations, j'arrive pas.
Oui, oui, bien sûr.
Et on a eu le U, c'est un fou. Il est fou.
Oui.
Et trois couleurs de feu. J'entends pas la différence.
Ah oui, le feu et le fou, tu n'entends pas la différence.
Non. Non, j'entends différemment, mais...
Si c'est pas la sonorité, il y a autre chose que tu peux entendre.
J'essaie d'imaginer que c'est le son que c'est E, et quel son est O, mais c'est pas naturel. Mais je pense pas que c'est mon problème de base, parce que...
Non, bien sûr. Tu fonctionnes dans la vie tous les jours, mais... Et ça, en général, c'est parce qu'au niveau de la sensation dans la bouche, de comment je fais un R, ou comment je fais un L, ou comment je fais un O, ou un E, O, E, c'est très... Ou E, O, E, O, E, ou E, c'est très proche tout ça. Et si dans ta langue tu ne l'as pas appris, eh bien ça, c'est difficile par après.
Mais
Même si je dis à mes enfants, c'est bien, dis non. Et là, je dis une fois et un des mille, je peux dire oui, mais je ne sais pas ce, qu'est-ce que j'ai fait.
Parfois,
ça m'énerve.
Ah oui, je comprends.
Évidemment. Parce que tes enfants, ils ont été élevés en français.
Ah, oui.
Et en japonais aussi.
Aussi.
Donc, ils ont les deux langues. Mais donc, ils ont, donc, au niveau auditif, ils ont probablement une plus large... Ils recouvrent une plus, un plus large panel de sons. Mm-hmm. Mais aussi, tout jeune, ils ont la sensation dans le, qui est très différente. Mm-hmm. Ah, c'est...
Ça peut corriger. Hein.
Mais ce qu'il y a aussi. Mais regardez, les sourds sont muets. Hein. Ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas. Et en fait, on apprend toujours en miroir. Et si certains mouvements de la bouche et certains sons n'existent pas dans l'enfance, on n'a pas le mouvement, on n'a pas le son. On sent pas le son fait par ce mouvement, donc on ne peut pas le reproduire et on est parti. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et vraiment, c'est comme si je ne peux entendre que ce que je suis capable de produire. Alors, dis un peu feu et fou.
Lesquels ?
Les deux, tu dis.
Feu ?
Oui.
Fou. J'arrive bien ou pas?
Oui,
et au niveau de l'audition,
parce que j'imagine bien eux et c'est comme ça qu'il faut faire la bosse.
Voilà, c'est ça.
Mais j'entends pas.
Voilà, tu n'entends pas et c'est conscient. Tu dois te mettre ta bouche comme ça pour. C'est pas naturel.
Non. Voilà. Et à la limite, nous on est dans l'autre sens quoi. On veut sortir le son, donc on ne fait plus vraiment attention à la bouche, on veut savoir juste ce qu'on veut dire. Quoi.
Mais c'est-à-dire, et ça on verra demain, c'est qu'une fois que le mouvement a été automatisé, ben, il sort tout seul, on doit plus réfléchir. Ça. Et donc peut-être demain aussi, quand on va travailler sur les ganglions de la base, ça pourrait jouer. Voilà.
Il n'y a aucun problème.
Pour ta langue maternelle,
non, non, bah, c'est pas la bouche de la langue. Il faut mettre elle, c'est là. Non, mais chaque fois.
En français, tu dois réfléchir.
Oui, mais les gens qui marquent le temps, elle est déplacée.
Ah.
Quand je suis pas fait, je ne fais pas attention.
Et tu parles français depuis combien de temps?
14 ans.
14 ans déjà.
Mais ça ne corrige pas.
Non,
mais
j'apprends, c'est fou, les L et les R, c'est presque. C'est L. C'est toujours L. La
toujours L. Oui, là et R. La L et le L. Oui. Et aussi, oui, parce que j'ai aussi les U sur la table. Mais sur la table, sous la table. Donc, sur les amis. Ça, c'est. Ben, j'ai quand même resté longtemps dans. B et V, ça n'existe pas.
Ouais.
Donc je fais attention, je sais comment imaginer, et quand je dis V, c'est. Il faut. Je suis extrait, et
ouais.
C'est B, c'est.
Oui,
tu
oui.
N'entends pas. Tu l'entends, mais
difficilement. Mm. Donc par exemple, bouffe, bœuf. Aussi, manger bouffe et le viande de bœuf,
oui.
Il faut que je fasse attention
vraiment. Bouffe et bœuf, oui.
Mais ça doit être crevant en fou.
Donc, c'est quand même au niveau de l'oreille.
Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, tu as, et ça, c'est la magie du cerveau, et de cerveau intelligent, et c'est comme ça chez les enfants qui ont d'énormes difficultés scolaires ils ont, et qui trouvent à compenser, ils ont c'est la compensation. Ouais. Et donc, toi, ce que tu as trouvé comme compensation dans l'expression, c'est d'être consciente de comment placer ta bouche. Ouais. Et dans l'écoute, ben, tu places le mot dans son contexte et à partir de là, tu devines. Et dans la plupart des cas, ça marche.
Oui.
Et comme ça marche, ben, tu ne vas pas plus loin.
Et est-ce qu'il y a...
Et c'est comme ça, c'est comme ça.
Ah oui.
Et est-ce qu'il y a le nous si on allait en
au Japon.
Si on allait au Japon, on aurait le même genre de difficulté pour certains.
Un autre niveau.
Un peu plus.
les Français en langue.
Mais nous, on est des Belges, on n'est pas les Français. Oui, là, c'est pas... Vous savez, sérieux, on a une largeur beaucoup plus grande que vous.
C'est ça, oui. Ah oui, c'est vrai.
Que ne les... fût-ce qu'au niveau des noms, parce que regarde, nous, on a tous ces noms flamands, Van den Brande, Van Copperzeel, etc. Mais en vlog en français, Van Vandenbrande ou Van Copperzeel, Zolle. Vous n'avez pas du tout les mêmes. Et nous, on a. Et du coup, on est beaucoup plus large au niveau des sons qu'on entend depuis tout petit que vous. Et ça, ça nous avantage par rapport aux Français pour apprendre d'autres langues. Mais ceux qui ont le plus de facilité, ce sont les Russes.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont une largeur de sons qu'ils entendent.
Dans leur propre langue.
Oui, c'est Thomas qui a fait ses recherches. Dans leur propre langue, ils couvrent énormément. Tandis que le français couvre par rapport à ça, par exemple ça, l'anglais ça, le flamand entre les deux, le japonais là, etc. Et donc si ta langue recouvre une autre langue, tu l'apprends facilement parce que tu as l'habitude de ces sons. Si ta langue ne le recouvre pas, tu as d'énormes difficultés. Et les Russes sont ceux qui recouvrent le plus largement l'ensemble des autres langues. Et donc, ils apprennent facilement d'autres langues. C'est toutes les recherches de Thomatiste. Bon, maintenant la procédure. Le timbre. Alors là, vous prenez note, hein, parce que je vais vous donner plein d'idées. Vous allez, comme préactivité, ce que vous pouvez faire. Les choses dans lesquelles vous pouvez trouver des difficultés. Vous devez donc faire un défi tactile. Et ça peut être quoi? Ça peut être juste à faire un toucher neutre à différents endroits du corps. Si par exemple la personne vous dit « je ne sens pas mon dos », allez dans le dos et touchez le dos à différents endroits. Vous pouvez aussi écrire une lettre ou un chiffre sur le dos et dire à la personne « qu'est-ce que c'est ?» Donc vous écrivez un A majuscule et vous dites ça, un A majuscule. Et si ça va bien, mais ça peut être même un petit mot comme oui, non, but. Ça va? Bien. Troisième chose, vous pouvez chatouiller la personne. C'est aussi une sensibilité tactile. Mais non, mais il y a des gens qui ne supportent pas d'être chatouillés. Alors ça peut être le terme que je mets en circuit.
Ah oui.
Par exemple. Ça va? Et ça peut être, je peux accepter d'être chatouillé les yeux ouverts, mais les yeux fermés, je ne supporte pas. Donc vous pouvez le faire, les yeux ouverts, les yeux fermés, chatouiller.
On peut travailler aussi là-dessus, sur par exemple les enfants qui ne supportent pas
le contact, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Aussi, si les gens ne connaissent pas leur corps, leur carte corporelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez leur demander de fermer les yeux. Ça va? Ils sont là, les yeux fermés. Vous allez toucher là. Et eux doivent venir toucher là. Vous touchez là. Ils doivent toucher là. Ça va? Donc, vous, de l'extérieur, vous touchez un point, ils ont les yeux fermés, ils ne savent pas voir où vous avez touché. Et de l'intérieur, ils doivent repérer où vous avez touché et vous le montrer. Ça va? C'est une préactivité.
Ils n'y arrivent pas,
je m'achète. Ils n'y arrivent pas. Et puis après, on refait. Vous pouvez... Bon, moi, j'ai amené plein de matériel un peu partout ici. Vous pouvez aussi utiliser au niveau sensibilité. Supposons que j'ai un fil de lin dans lequel j'ai plein de nœuds. Ça va? Faire des nœuds, déjà, ça demande... Bon, on est dans le moteur et le sensoriel, je suis d'accord. Mais, par exemple, vous pouvez demander à la personne de passer le doigt et de repérer combien il y a de nœuds. Il y en a, ils ne pourront pas vous le dire. Vous pouvez mettre des nœuds proches, des nœuds lointains. Mais vous pouvez aussi demander, et ça demande une perception pour le faire, bien sûr vous allez faire un mouvement moteur, est-ce que tu peux me défaire le nœud? Par exemple, c'est difficile. Hein? Bon. Vous pouvez aussi jouer avec du scotch. Vous prenez une petite boule de scotch. Bon, j'y arrive pas. On ira en rechercher un autre. Bon, je vais faire avec ça. Et vous faites une boule. Ça va? Petite boule de papier collant. Il m'en faudrait un peu plus. Et puis, vous pouvez demander à la personne de rouler, par exemple, entre le pouce et l'index. De rouler la petite boule. ça va, et puis de passer de l'autre côté. Et puis de passer de la boule entre, vous passez un autre doigt et un autre doigt, les yeux ouverts, les yeux fermés. Bien sûr, on est dans le moteur, mais pour pouvoir faire le moteur, je dois pouvoir sentir ce que je fais. Vous pouvez aussi jouer avec des boules de Qigong. Vous connaissez ça? Si vous le faites, faites-le au-dessus de la table ou quoi, que ça ne tombe pas par terre. Donc, vous devez les faire tourner dans un sens et puis dans l'autre sens. Là, je n'y arrive pas, par exemple. J'y arrive difficilement. Avec une main, avec l'autre main. Ça va? Par exemple. Les yeux fermés, ici, dans ce sac, c'est un sac secret. Dans ce sac, j'ai mis des objets. Alors, vous pouvez soit demander à la personne d'en prendre un et de, juste par le ressenti, vous dire qu'est-ce qu'elle a. Et puis vous le sortez et vous lui montrez. Voilà. Il n'y a pas d'objet dangereux, donc ne vous en faites pas.
Il n'y a pas de bestioles ?
Quoi ?
Il n'y a pas de bestioles ?
Oh, il y a peut-être un préservatif ou des choses comme ça.
Il y a un steak de bœuf et un steak de bœuf, il faut le dire.
Ou alors la personne a les yeux fermés et vous lui donnez l'objet en main et elle doit le sentir. Chantal Bernon. Il y a aussi un pinceau. Vous pouvez venir stimuler la peau au pinceau. Si la personne dit mais moi je sens rien là, vous pouvez venir stimuler au pinceau. Ça peut être aussi bien préactivité que quelque chose pour mettre dans le setup. Hein. Si vous pouvez aussi pousser sur la peau, ici j'ai pas trouvé de papier Emery, mais j'ai pris ça, frotté comme ça sur la peau, hein, avec différentes choses. J'ai aussi pris des cotons démaquillants, vous pouvez prendre un coton démaquillant, etc. Il y a moyen de faire différentes choses et de stimuler la peau. Au niveau des articulations, là, c'est clair que l'air somato-sensoriel envoie aussi des informations qui viennent des articulations, mais là, vous ne pouvez pas les bouger. Donc, il faut que le testeur vienne tirer sur les articulations, les mobilise, sans que la personne bouge, pour envoyer l'information. Ça va, ce soir ?
Non, je
n'ai pas compris. Je peux avoir ta main ? Mais je prends, par exemple, sa main et je tire dessus. Je pousse sur l'articulation ou alors son doigt, ben je peux. C'est pas elle qui le bouge, c'est moi. Donc l'information part du pouce.
Parce que sinon on entrerait trop dans le moteur.
Parce que là on est dans le moteur. Si je veux spécifiquement faire le sens. Vous pouvez aussi, par exemple, où est-ce qu'ils sont ? Ici. J'ai des petits labyrinthes. Et la personne peut, par exemple, sans regarder, suivre. Bien sûr, il y a le moteur. Mais pour pouvoir faire le moteur, je dois sentir où je tourne. Qu'est-ce qui fait mon labyrinthe, etc. Ça va ? On rentre dans du plus complexe. Vous allez voir, après, on va rentrer dans du encore plus complexe. Hein. Mais au niveau sensation, vous sentez que c'est quand même la sensation qui prime ici. C'est grâce à la sensation que je peux me guider pour bouger. Ça va ? Ça, c'est un autre exemple. Il y a des toutes petites billes là-dedans. Pour l'instant, ne les utilisez pas parce qu'on y arrivera à des mouvements complexes après. Et surtout, ne les perdez pas. Ça, on y arrivera aussi tout à l'heure. Oui. Et donc, vous pouvez... Voilà, plein de préactivités et vous allez en trouver d'autres. Donc, vous pouvez rentrer un timbre en circuit, mais cette fois-ci, le timbre va être un timbre physique. Et le timbre peut être... Bon, vous allez faire vos préactivités, bien sûr. Vous pouvez demander à la personne, je recommence, j'efface, je monte. La personne arrive, elle me dit, voilà, j'ai des difficultés à sentir mon corps. Alors, par exemple, j'arrive pas, ou c'est un enfant hyperactif, et vous voulez l'aider au niveau de repérer son corps. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui faites faire diverses préactivités. Suivre le labyrinthe, et vous pouvez tester la préactivité dont il a besoin ou les préactivités. Par exemple, avec un pinceau, vous lui demandez, tu sens rien du tout, avec deux doigts ou deux biques, rien du tout, etc. Donc vous voyez que ça ne va pas du tout.
comme ça, comme c'est fermé derrière. Salut.
Ok, vous avez fait les préactivités. Maintenant, vous rentrez votre âme en circuit. La personne, elle ne connaît pas son corps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple? C'est aller toucher son corps avec des pressions fortes partout pour vraiment lui faire sentir son corps et vous mettez ça en circuit. Par exemple, ça va? Vous avez rentré le âme. Vous rentrez le mode organe pour rentrer dans le cortex. Ah! Mais maintenant, on ne va plus dans l'air motrice. On va aller dans l'air somato-sensoriel. Et l'air somato-sensoriel, en fait, elle est juste, ici vous êtes à la verticale, elle est juste derrière. Donc vous laissez le pouce au même endroit dans le petit creux, là. Quand vous ouvrez la bouche, vous sentez, mais vous allez un petit peu en oblique, vers l'arrière, d'environ 10-15 degrés. Et là, vous êtes sur l'air somatosensoriel. Donc, si c'est l'air somatosensoriel droite ou gauche, vous cherchez la localisation exacte, vous allez à l'oreille, exactement de la même manière, ça va? Mais cette fois-ci, au lieu d'activer la zone, qui est le moteur, vous allez demander à la personne de stimuler, on va lui stimuler la zone. C'est-à-dire, si je travaille avec Joël et que je tombe sur la zone du pouce, sur le cortex droit, au niveau de l'oreille droite, la zone du pouce, j'irai à son pouce gauche et j'irai, moi, stimuler son pouce gauche. Et je peux le stimuler avec un pinceau, je peux le stimuler en passant et je vois ce qui provoque du stress. Ça va? Et donc là, c'est une stimulation extérieure. C'est plus activé, c'est stimulé de l'extérieur. Logique. Logique, hein? Bon. Dites-moi si c'est pas clair. Et puis, vous recommencez exactement la même chose. Mais ici, on travaille sur le sensoriel et pas sur le musculaire. Moteur. Ça va? Est-ce que la technique vous semble claire? Parce que si la technique vous semble claire, alors perso, j'aimerais bien continuer à aller plus loin. Parce que je voudrais bien voir les autres aires motrices et alors que, à la limite, je vous fasse une démo complète et que si on n'a pas le temps de tout pratiquer aujourd'hui, vous pratiquez demain. Mais comment on est fini le cortex aujourd'hui? Ça va? Mais donc, je laisse dans ma caisse tous les objets et là, vous y allez dans la pratique tout à l'heure. Bien.
J'ai un peu perdu le fil en montant. 4, ça reste pour un 4.
4, je vais à l'oreille. Okay. La ça même chose. Ça. Je vais l'enlever. Ah, je sais pourquoi j'avais mis entre parenthèses. C'était bilatéral.
Ah, oui.
Et puis 5, je stimule la zone.
C'est le testeur, mais qu'est-ce que tu dis?
Oui, parce que c'est une sensation, si c'est une articulation, je peux tirer dessus, etc. Tout ce que je vous ai dit avant. D'accord? Bien. Maintenant, on a vu l'information arrive et l'information repart. Par exemple, j'approche mon doigt, ça brûle, l'information arrive, l'information repart, tire ton doigt. Ok, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais le système moteur demande plus que juste bouger mon doigt. Je dois, par exemple, pour aller vers là, je dois avoir toute une séquence de mouvements que je dois planifier, etc., etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et là, ça s'appelle les aires prémotrices. Et dans votre livre, c'est à la page 76, que vous allez trouver les aires, et 77, vous allez trouver les différentes aires prémotrices. Donc, les aires prémotrices se trouvent en avant de l'aire motrice. Et vous voyez à la page, à ces deux pages, que vous avez en fait, on appelle cela non seulement l'aire prémotrice, mais il y a aussi l'aire motrice supplémentaire. Donc, ce n'est pas juste une aire et on va préciser ça. Toute cette zone-là va intervenir dans la planification motrice. Donc, dans le plan, comment je synchronise les choses, comment je coordine les choses, comment j'organise mon mouvement, comment je crée la vision de mon mouvement. Donc, toute cette planification motrice, c'est l'aire prémotrice qui le décide. Donc elle est comme un chef d'orchestre qui va décider pour aller chercher ceci, je dois d'abord tendre la main, puis étendre le bras, puis serrer l'aide, etc., etc. Ça va ? Dans quel ordre je vais devoir faire les choses ? Comment coordonner ? Si je jongle, par exemple, eh bien, je dois utiliser mes deux mains dans un rythme, etc., etc. Ça va ? Bien. Cette aire prémotrice, c'est l'aire 6. En avant de l'aire 4, on a l'aire 6. Puis on a... Oui, pardon. Un neuropsychologue russe qui s'appelle Lulia parle d'une mélodie kinétique pour dire qu'une manière de bouger, une manière de jongler, une manière de jouer au piano, etc., est mélodieux ou non. Quelqu'un qui apprend à jongler, quelqu'un qui apprend à rouler à vélo, etc., c'est pas harmonieux. Ce n'est pas mélodieux. Ok. Donc, cette planification motrice joue donc un très grand rôle dans tout ce timing moteur. Puis, on a à l'avant l'aire motrice supplémentaire. Et cette aire motrice supplémentaire, elle est mal dessinée, hein, parce qu'elle m'embête, cette aire-là, parce qu'en fait, sur la page 76, on a l'impression qu'elle est ici, en avant, pardon. Ouais, c'est ça. Ici, en avant. Mais en fait, elle est dessinée là, mais en fait, elle est en dedans. Et c'est ça que vous ne voyez pas très bien. Je vous explique pourquoi. Voilà comment votre schéma est dessiné comme ça. Vous avez un cerveau, et puis vous avez l'autre hémisphère qui est comme ça. Ça va ? Et voilà, vous avez dans les deux... Et donc, vous avez ici l'aire motrice supplémentaire, et puis elle rentre en dessous, et puis on voit ici celle de l'autre cerveau. Et c'est ça que vous voyez. Si vous regardez sur mon schéma, moi ce que j'ai mis en orange, il n'y a qu'une toute petite partie qui est sur la face externe, l'autre c'est la face interne de l'autre hémisphère. Là, toute cette grande partie. Ça va ? Donc en fait, le schéma est malheureusement mal fait, mais quand vous regardez, si j'ai par exemple ici mon aire motrice, j'aurai mon aire prémotrice ici en avant, et l'aire motrice supplémentaire se trouve surtout ici, et un petit peu seulement là, mais elle se trouve surtout là. D'accord ?
Oui.
Vous repérez ça sur votre dessin ?
Oui.
Oui, mais bon, voilà. Notez, peut-être, c'est la partie du cortex qui descend en dedans vers le corps calleux, en dedans de l'aire prémotrice.
Mais les autres aires descendent aussi, prémotrice sur le dessin, par exemple.
Mais...
En dedans, si tu regardes le cortex moteur, il est aussi...
Oui, oui, les autres descendent aussi, mais si tu veux, tu as ton aire prémotrice ici, mais... Un peu en avant, mais surtout en dedans, tu auras l'aire motrice supplémentaire. Mais de toute façon, on les voit les deux ensemble, en gros. Et donc, l'aire motrice supplémentaire, son grand rôle à elle, c'est la coordination des mouvements. C'est toujours de la planification-coordination, mais ici, c'est les mouvements bilatéraux. Et c'est comme par hasard, elle qui est tout près du corps calleux pour passer d'un côté à l'autre. Et puis, il semblerait qu'encore un tout petit peu plus vers l'avant de cette aire motrice supplémentaire, vous avez ce qu'on appelle le champ visuel frontal. Je vais vous le dessiner au tableau tout de suite. Qui organise les mouvements oculaires volontaires.
En avant.
En avant de l'aire motrice supplémentaire.
En avant, vers l'avant, comme ça.
Vers l'avant, vraiment, oui, oui. Et donc, si je dessine maintenant votre cortex, mais plus au niveau, vous avez l'oreille ici, hein, avec le trou et le tragus, votre 21 de rate est ici, 21 de rate, de triple réchauffeur, est là. Si vous allez à la verticale, c'est le moteur. Si vous allez en oblique vers l'arrière, c'est le somato-sensoriel. D'accord ? Si vous avez en oblique vers l'avant, ici, c'est l'air prémotrice. Ensuite, à partir de là, vous pouvez vous dire, je vais un tout petit peu, bon, ici, il n'y a rien, mais je vais un tout petit peu plus en avant, et là, je vais mettre en vert parce que vous allez la repérer. Ici, un tout petit peu plus en avant, j'ai l'air motrice supplémentaire. Et encore un tout petit peu plus en avant ici, j'ai l'air, le champ, comment je l'appelle, le champ oculaire frontal, le champ visuel frontal. Mais ça, ce sont vraiment des petites spécificités. Parce qu'en fait, vous avez quoi ? Moteur, prémoteur, somatosensoriel. Ça, c'est les trois groupes. Maintenant, si je suis dans le prémoteur, je peux aller un tout petit peu plus vers l'avant et scanner cette zone-là. Ça va ? Comme ceci. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée. Bien. Et après, je quitte la zone motrice et j'arrive dans le cerveau préfrontal, qui est le cerveau où je décide les choses. Je décide que je veux aller chercher un verre d'eau. Je décide, etc. Ça va ? Donc, moteur, en arrière sensoriel, en avant prémoteur, et puis juste tout en haut, tout près de là, le moteur supplémentaire, et puis le champ visuel frontal. L'avant est ici. Avant. Ça va, Tomoe ? Tu vois pas bien ou c'est OK ?
Ouais, ouais.
OK.
Et le champ visuel frontal, il couvre aussi tout.
Il est vraiment juste ici, tout en haut, là, en avant de l'air prémotrice.
Bah, il ne va pas dedans. Pas
trop. De toute façon, tu ne sais pas y aller. Avec ta main, tu ne sais quand même pas y aller. Et là, c'est l'organisation des mouvements oculaires. Sinon, sans ça, on n'aurait que des mouvements réflexes des yeux. Hein, on ne pourrait pas organiser son regard. Quand vous voyez un bébé, son regard est un peu par dans le vague, comme ça, comme s'il ne pouvait pas suivre. Et vous voyez qu'il apprend à pouvoir rester, déplacer son regard. Eh bien, c'est ça. C'est cette zone-là qui commence à s'activer. Alors, s'il y a des lésions dans l'air prémotrice ou motrice supplémentaire, etc., mais là, comme c'est l'air qui coordonne, qui tout ça, là, vous aurez des difficultés au niveau coordination œil-main, par exemple. Ou vous aurez des difficultés, ça s'appelle la persévération. Si, par exemple, je vous demande, j'enlève ça, pour l'instant, le bilatéral, on va laisser tomber. Si par exemple je vous demande de dessiner ceci, ok, je demande à un enfant de dessiner ça. Et il va commencer à dessiner ça, et puis il va essayer, et voilà, et puis il va essayer, et voilà, mais il ne va pas arriver. Il va, une fois qu'il est dans un schéma moteur, qu'il sent, parce que ça demande un changement. Ou contre la même chose, si je vous demande de recopier ça, par exemple, impossible, parce que sans arrêt, ça change de séquence de mouvement. Et ça, c'est extrêmement difficile. S'il y a un stress au niveau de la lésion, de l'air prémotrice. Idem si je vous demande de faire... djembé. Impossible. Si j'ai... Donc, par exemple, améliorer des mouvements de djembé, tu fais faire, et puis tu mets sur la table, et puis tu équilibres ça. Tu trouveras du stress à cet endroit-là. C'est vraiment toute cette planification, toute cette coordination, mais aussi le changement, difficulté à changer, j'ai de schéma de mouvement une fois que je l'ai commencé. Ça va ? Or, l'écriture, c'est quoi ? Je dois sans arrêt changer de schéma de mouvement. D'accord ? Bien. Donc, tout ça, c'est cette ère-là. Idem dans les relations. Tout ce qu'on voit avec des schémas de mouvement, ça peut être dans les relations aussi. Je persévère toujours de ma même manière, je me comporte, j'agis toujours de la même manière dans ma relation. Je ne peux pas en changer. Et chez les personnes qui ont vraiment de grosses difficultés, des lésions, on voit ça très fort. Ou alors, je rentre dans des pensées qui tournent en rond, ou je tourne en rond dans ma vie, ou j'ai des mouvements qui tournent en rond, des mouvements stéréotypés. C'est toute cette zone-là toujours. Ou alors, je dois faire un mouvement, par exemple, et je fais un mouvement, et ça y est, maintenant j'y suis ce mouvement-là. Voilà, je le fais, ce mouvement-là. Et puis on me dit, assieds-toi sur une chaise et refais le mouvement. Impossible. Dès que le contexte change, je ne peux plus faire mon mouvement, par exemple. C'est aussi là que ça se trouve. Bon, là, je parle de vraies lésions pour faire sentir ce que fait la zone. La lecture, ça demande un suivi d'une ligne à une vitesse assez rapide, pouvoir revenir si je n'ai pas saisi, etc., etc. Ces gens-là, ils lisent, pouf, ils retombent, pouf. Les yeux ne savent pas rester. Parce que je ne suis pas dans la séquence. Ok. Si vous regardez dans le livre, à cette page 77, vous voyez que dans cette ère primotrice, on vous parle de quatre zones. En dessous, la zone de formation des mots, l'ère de Broca. Vous voyez ça? Là, c'est vraiment former les mots. Et donc, je dois dire, par exemple, automobile. Anticompté. Ça va? Si c'est mouvement oculaire contralatéraux, là, juste au-dessus, là, c'est la personne, on peut lui demander comme activité de suivre des yeux quelque chose. Ça va ? Si c'est juste au-dessus, rotation de la tête, vous demandez à la personne de tourner sa tête. Au-dessus, c'est la dextérité manuelle. Alors là, ça peut être des choses précises avec les mains. Par exemple. En général, je vous l'ai dit, l'air motrice supplémentaire, c'est les mouvements bilatéraux. L'air prémotrice, c'est généralement des mouvements contralatéraux, donc c'est de l'autre côté. Et donc, vous pouvez, si vous le voulez, au niveau... Pourquoi je vous dis ça maintenant ? Trop tard, je vous l'ai dit. Mais donc, je reviens maintenant à notre procédure, je reviens à la suite après, parce que j'en ai parlé. Vous rentrez le timbre, mode organe, vous allez voir l'air motrice, vous allez voir l'air somatosensoriel, vous pouvez aussi aller voir l'air prémotrice. Mais l'air prémotrice, vous n'allez pas à l'oreille, parce que ce n'est pas aussi précis. L'air prémotrice, je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux placer index, majeur, tchic, tchac, et voir lequel me donne un stress. Et alors je me base sur ce schéma. Ça va? Parce que les grandes zones qui sont complexes dans le mouvement, c'est par exemple la parole. Et ça, c'est, je suis là, je vais en bas, je suis à Broca, et bien là, je demanderai à la personne d'articuler, par exemple. Ou de parler très vite.
Ça, c'est cœur,
pas. Non, ça peut être les deux côtés. Parce que le langage, c'est à gauche. Mais le langage, ça c'est le langage mot.
Il y a le sens, mais là, il y a le...
Ça c'est Wernicke.
Oui,
ici on parle de l'articulation du mot. Ça, mais quand le... j'articule un mot, c'est les deux côtés. Parce que quand j'articule un mot, je peux te dire automobile. Je peux te dire automobile. Il y a un ton qui est différent. Le cerveau droit donne le ton. Et donc je peux avoir du stress à prononcer le mot parce que je n'ai pas la prosodie. Voilà, ça s'appelle la prosodie. Je n'ai pas la prosodie. Si je vous donne cours comme ça, je n'ai pas de prosodie pour vous donner cours. Ça va? C'est ça. Donc les deux sont nécessaires dans le langage. Bien. Alors, un truc très important, ben, ce sont les yeux, c'est le mouvement de la tête, la coordination de la tête et la dextérité manuelle. Donc il y a quatre zones principales. Ben, maintenant, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas un changement comme ça spécifique, vous pouvez malgré tout aller sur l'oreille, mais ce sera plus global et pas aussi précis sur l'oreille. Ça va?
C'est dans le cours quelque part ton...
Non, mais tu l'as ici, 1, 2, 3, 4. La manière de faire, non.
1, 2, 3, 4.
Ça va? Je suis arrivée à ça, je ne voulais pas arriver encore à ça, mais je suis arrivée. Maintenant, quand vous allez faire l'équilibration, si vous voulez utiliser uniquement l'air prémotrice, ben vous demandez à la personne de faire des mouvements de coordination. Coordination œil-main. Ou ça peut être de prendre des ciseaux, de tracer une ligne et la personne est obligée de découper dextérité manuelle. Ou alors cette fois-ci sur les petits labyrinthes, cette fois-ci vous mettez la bille et la personne doit être capable de suivre la bille. Ou alors un jeu que je n'ai plus, c'est, vous savez, c'est un fil de fer avec une petite antenne et vous devez passer, soit ça fait du bruit, soit ça s'allume si vous touchez le fil de fer. Vous voyez ça? Alors j'en ai un autre ici qui est très sympa. Je connais déjà qui vont venir jouer. Voilà. Je vous montre. On est là pour s'amuser. On a bien le brain, on est là pour s'amuser. En tout cas, le premier jour. Après, on n'utilise plus tout ça, mais c'est pas grave. On s'amuse. Et donc, vous avez des petites billes, ici donc, c'est les grosses, les petites, petites, c'est pour les labyrinthes, les grosses, c'est pour ça. Elles sont pas allées en vacances, mais voilà. Et donc,